France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la libre pensée. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. Bonjour. Au micro, Christophe Biteau, vice-président de la Fédération nationale de la libre pensée, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Hélène Lortie, membre de la Commission internationale de la libre pensée. Bonjour Hélène.
Bonjour Christophe.
Et nous avons intitulé cette émission Rêve d'Orient. Hélène, pouvez-vous nous dire pourquoi ce titre ?
Eh bien, tout d'abord parce que l'union de l'Orient et de l'Occident a traversé les millénaires, évidemment, portée par des personnages illustres que l'on est libre, évidemment, d'apprécier ou pas. Je voudrais en citer quelques-uns. Alexandre le Grand, Cléopâtre, Julien d'Aposta, Frédéric II de Hohenstaufen, Napoléon Bonaparte et Laurent Zarabi. On pourrait évidemment y ajouter avec quelques nuances Atatürk, qui a établi la modernité dans un pays qui est la transition entre l'Orient et l'Occident. Ensuite, parce que je voudrais vous parler de deux ouvrages assez récents, publiés par la Libre Pensée. Alors, la Libre Pensée dans le monde arabo-musulman et judéicité, laïcité et libre pensée. Ouvrages qui sont dans notre esprit évidemment très complémentaires et surtout dans la situation dramatique que nous connaissons actuellement en Orient, qui a d'importantes conséquences dans le monde, en Europe et bien sûr en France.
Dans la liste que vous établissez, il y a deux noms qui ne sont guère connus. Julien l'Aposta et Frédéric II de Hohenstaufen. Il est peu connu peut-être parce que son nom est difficilement prononçable, qui sait. Pouvez-vous nous dire plus sur ces deux personnages ?
Bien sûr, eh bien, ce sont deux personnages historiques qui ont bien existé. Contrairement au mythe Jésus-Christ, qu'ils sont pourtant censés avoir croisé sur leur chemin. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les mythes ont leur valeur, dès lors cependant qu'on ne leur prête pas une réalité historique. Julien l'Aposta était un neveu de Constantin Ier, qui a converti l'Empire romain au christianisme. Julien va régner quand même 18 ans et sera assassiné par un chrétien fanatique du nom de Mercure, dont l'Église catholique fera d'ailleurs un saint. Il n'est pas le seul meurtrier sanctifié, entre guillemets, par le Vatican. Eh oui. Élevé dans la religion chrétienne par les évêques Eusèbe de Nicomédie puis Georges de Cappadoce, mais dans sa forme arienne et non pas nicéenne, Julien doit son surnom d'apostat à la volonté qu'il manifeste durant son règne de lutter contre le christianisme et de renforcer le polythéisme dans l'Empire. Julien veut réduire l'influence du christianisme, alors il pense même faire reconstruire le temple de Jérusalem pour résoudre à la racine la question de la religion du prétendu crucifié en la réduisant à néant. Et c'est ce qui lui valut d'être assassiné. Certes, il est dit que le Nouveau Testament n'est pas l'abolition, mais l'accomplissement de l'Ancien. Néanmoins, le judéo-christianisme est une notion très récente, puisqu'inventée au début du XIXe siècle et popularisée par les cercles réactionnaires afin de tenter de faire oublier, après la Deuxième Guerre mondiale, leur immense responsabilité dans le génocide de 6 millions de Juifs par les nazis. Et qu'on le veuille ou non, le christianisme fut le fondement de l'antisémitisme. Rappelons par exemple qu'en 1890, le journal La Croix s'autoproclamait journal le plus anti-juif de France.
Eh bien, on a les références qu'on mérite. Et Frédéric II de Hohenstaufen, à force d'en parler, je vais finir par le dire, c'est quand même curieux qu'un empereur du Saint-Empire romain germanique figure dans une liste de personnages illustres pour la libre pensée. Quel paradoxe !
Oui. En apparence, nous le chérissons particulièrement pour plusieurs raisons, en fait. D'abord, il a été excommunié, comme son père Henri IV de Germanie, qui devra expier en allant à Canossa, en restant plusieurs jours quasi nu dans la neige. De Canossa à Bétharram, si les sévices varient, il demeure malheureusement une tradition. Son grand-père, le grand Barberousse, sera aussi excommunié. Frédéric II était tellement normand par sa mère et si peu germain par son père qu'ils étaient profondément tolérants. Il reconquerra Jérusalem, d'ailleurs aux mains des Sarrasins, sans verser une goutte de sang. Il se fera empereur en se déposant lui-même la couronne impériale sur la tête et sans le concours ecclésiastique, ce qui donnera des idées à un autre personnage célèbre, à Notre-Dame en 1804.
On n'est jamais si bien servi que par soi-même.
En effet. Il perpétua le vieux rêve inachevé de l'union de l'Orient et de l'Occident. Comme les rois normands, particulièrement Roger II de Sicile, il vécut entouré d'historiens, de géographes, de mathématiciens, de poètes et d'écrivains, tous arabes. Il fonda d'ailleurs à Naples, en 1226, la première université laïque. Il tentera ensuite de continuer l'œuvre de Roger II de Sicile, dont la présence normande reste encore visible dans les bâtiments et dans les tombeaux. Le roi normand avait autour de lui, pour le défendre jusqu'à la mort, une cavalerie arabe et une garde, entre guillemets, nègre, d'une fidélité absolue et d'une puissance vraiment dévastatrice. Sous son règne, il faut dire, les Juifs furent traités avec bienveillance, obtinrent des privilèges, furent autorisés à observer leurs traditions, prier librement et lire le Talmud dans les synagogues, sans être inquiétés en une époque où, partout en Europe, quand même, on commençait à parler de prétendus crimes rituels attribués aux Juifs et où les massacres qui avaient accompagné le départ de la croisade étaient très loin d'être oubliés.
Eh bien, c'est une période de paix que vous nous décrivez là, qui sont bien loin de notre actualité.
C'est sûr.
Quand on lit le titre d'un des deux ouvrages dont vous avez parlé tout à l'heure, « La libre pensée dans le monde arabo-musulman », je pense que certains esprits chagrins, voire racistes, pourraient peut-être y voir un oxymore. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, pas du tout. C'est plutôt un pléonasme.
C'est mieux.
Oui, aussi étonnant que cela puisse paraître. Cet ouvrage fera sans nulle date, je pense. Il tend à aborder la question de l'islam autrement que par un prisme réducteur raciste. Il faut s'efforcer d'avoir une vision rationnelle des choses et des processus et appréhender le mouvement des faits et leur logique. Les choses ne sont jamais simples, évidemment. L'islam a régné sur le plus grand empire ayant jamais existé, puisque pendant 2 siècles, il rayonna sur 3 continents. Du point de vue religieux, il n'est qu'une variante du christianisme, l'arianisme. C'est pourquoi il s'implanta si facilement au sein des terres de l'Empire d'Orient et d'Afrique du Nord. Il fut porteur d'un message d'égalité aussi, à travers le pèlerinage à la Mecque, car tous pouvaient l'effectuer. Maîtres et humbles, tous pouvaient être hadj. En de nombreux lieux, ce sont les musulmans qui libèrent les esclaves, ce qui explique le développement de l'islam dans certaines couches sociales, on ne sait pas. Quand l'empire musulman se développe, les frontières étaient fermées depuis 1000 ans, depuis Alexandre le Grand donc. Elles vont s'ouvrir avec l'islam par le commerce. Les caravanes sont le vecteur de la propagation de l'islam, les idées nouvelles accompagnent les marchandises et l'islam apporte une certaine sécurité aux bédouins et aux marchands. Ce qui unit l'empire islamique, c'est le commerce, notamment du textile, qui va devenir fondamental dans les échanges. Par un système de chèques bien avant l'heure, l'argent coule à flot sur la base de la confiance et des places financières vont se développer. L'islam irradie ainsi l'Europe chrétienne. Assez rapidement, Bagdad, qui est aussi le centre de la nouvelle religion, devient le foyer du savoir et de la culture. Le savoir se développe pour résoudre les problèmes de cet empire si vaste et si puissant. Et l'islam devient l'Athanor de la connaissance. On exhume les textes anciens, qu'on traduit, qu'on analyse et qu'on discute. Il n'y a alors aucune contradiction, en fait, entre le savoir et la foi. Les musulmans intègrent Platon et Aristote à leur pensée, l'arabe devient la langue de la connaissance, et en Europe même, où le christianisme développe l'inquisition, les érudits apprennent la langue qui véhicule la recherche. La Renaissance aussi a incontestablement ses origines à Bagdad. Par exemple, l'islam réexamine tout et passe le savoir de l'époque à la dure école de la critique. C'est le début de la recherche scientifique. La médecine connaît un nouveau développement et un nouvel essor en découvrant par exemple le papier en Asie et en l'utilisant massivement en lieu et place des parchemins. Eh bien, les musulmans vont contribuer à la diffusion des idées. Et ce sont les croisades sanglantes de l'empire chrétien qui vont porter un coup important à ce développement de la civilisation en Orient. En 1099, la prise de Jérusalem par les croisés, massacrant indistinctement musulmans, juifs et chrétiens d'Orient, va rester comme un traumatisme profond qui agrandira le fossé entre le monde chrétien et le monde musulman. Et c'est véritablement le choc initial que les musulmans n'oublieront absolument jamais.
Eh bien, à entendre cette longue page d'histoire, j'ai justement envie de dire, mais que d'histoire ?
Eh oui, et le temps ne me permet pas de tout vous citer, mais le lecteur, outre qu'il rencontrera des personnages d'une grande richesse, tels que Avicenne, Averroès ou encore Meslayaj, pourra étudier les rapports entre le soufisme et la franc-maçonnerie, la persistance du zoroastrisme dans le monde musulman, les notions d'athéisme, de laïcité, de tolérance et tant d'autres termes. Vraiment passionnants.
Bien, pour comprendre, il faut d'abord savoir et apprendre. Telle est l'ambition de ce livre, je pense, et de la Libre Pensée. Hélène, pourriez-vous maintenant aborder le deuxième ouvrage ? Le titre est « Judaïcité, laïcité et libre pensée ».
Bien, écoutez, je dirais qu'il y a des lectures nécessaires, qui deviennent même urgentes. L'ouvrage collectif de la Libre Pensée, Judaïcité, Laïcité et Libre Pensée, est vraiment de celle-là. Alors, le premier volet de cette compréhension est de savoir l'aspect frauduleux, mystificateur même, notamment contenu dans la formule hautement mensongère, entre guillemets, un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Il faut absolument revenir sur les travaux, notamment d'un grand historien, Shlomo Sand, sur l'invention du terme, entre guillemets, du peuple juif. Et la Bible, comme première matrice de ces créations, n'est pas secondaire. Benjamin Netanyahou s'en réclame. Les guerres entre Israélites et Canaïens n'ont certainement pas existé, mais la Bible raconte en détail l'extermination des seconds par les premiers. C'est absolument glaçant. Dans cette courte présentation, nous n'allons pas paraphraser ce qui est écrit, ce serait dommage tant l'étude est riche et tellement chaque partie mérite une lecture approfondie et soutenue. Mais l'antagonisme profond, quasiment substantiel, entre judaïsme et sionisme est étudié dans le détail. On ne peut comprendre l'ampleur et l'intensité des manifestations de juifs et de juives dans le monde contre les massacres perpétrés en leur nom sans cet aspect. Ce n'est pas du pacifisme, je dirais, ni de l'internationalisme, ou alors c'est le meilleur des pacifismes et le plus bel internationalisme. C'est le cri paradoxalement à la fois désespéré et rempli d'espoir d'un peuple opprimé depuis toujours, qui, parce qu'il est opprimé depuis toujours, garde en lui précieusement toute l'humanité qu'on a voulu lui dénier. Alors c'est le cas par exemple des soldats israéliens qui refusent de servir dans les territoires occupés.
Ils sont de plus en plus nombreux, je crois.
Ah oui, c'est tout à fait vrai. Et qui sont victimes de persécutions sans nom. C'est la phrase bien connue et à juste titre de celui qui fut probablement le plus grand historien devant l'histoire, Marc Bloch, assassiné par les nazis parce que juif et parce que résistant, et qui écrivait « Je ne revendique jamais mon origine que dans un seul cas, en face d'un antisémite ». C'est l'histoire saisissante des militants juifs, internationalistes et laïcs, comme Heinrich Ehrlich, assassiné par Staline, pourfendant le sionisme parce que, je le cite, « c'est un nationalisme juif tout aussi hideux et répugnant que celui des non-juifs ». Alors, on ne peut comprendre ces choses sans souvenir du précepte du petit prophète juif Hillel, injustement méconnu, et sa règle d'or. On lui demandait de résumer la Torah debout sur une jambe. Et il a dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Maintenant, rentre chez toi et étudie. » La seconde partie du conseil vaut autant vraiment que la première.
Certainement.
Énormément de choses sont contenues dans cet ouvrage de plus de 200 pages qui revient entre autres sur la création de l'État d'Israël, envisagé avant le génocide par les nazis, l'État qui est le produit de la religion, il faut le rappeler, du capitalisme et de l'ONU et du stalinisme.
Ce qu'on oublie souvent, cet ouvrage me semble assez divers, passionnant et divers, varié dirais-je.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, et cependant sur un tel sujet, qui aurait l'outrecuidance de prétendre à l'exhaustivité ? Néanmoins, les thèmes abordés sont nombreux et qu'on en juge. La partie historique est essentielle, elle permet de faire la part des choses entre faits historiques avérés et mythes et légendes, c'est important. Pour ce faire, nous nous appuyons beaucoup sur trois intellectuels juifs, Israël Finkelstein, Nila Scherzil-Bellermann d'une part et Shlomo Sand d'autre part. Les deux premiers s'emploient dans leur publication à remettre en cause de façon méticuleuse et argumentée le caractère historique de la Bible. Et Sand, quant à lui, en s'appuyant à la fois sur son histoire personnelle et sur l'histoire avec un grand H, démonte la notion de peuple juif, entre guillemets. Se pose toute la question de la différence, alors, entre peuple et religion. Puisque nous parlons de religion, c'est un thème majeur de notre ouvrage, l'étude des relations complexes entre le judaïsme et le sionisme permet de rejeter totalement l'équation simpliste et mensongère « antisionisme égale antisémitisme ». Le premier terme désigne une position politique et le second une affirmation raciste, alors que chacun pèse bien le danger d'une telle assimilation. L'antisémitisme est étudié dans ce livre, l'antisémitisme politique en Angleterre au début du XXe siècle par exemple, et aussi l'antisémitisme religieux par le biais des positions fluctuantes du Vatican.
Alors, ce livre est à lire d'urgence et je pense pour une chose que vous avez évoquée au moins, c'est la différence entre antisionisme et antisémitisme. Je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Donc, un livre vraiment de salubrité publique et à lire d'urgence, à mon humble avis.
Effectivement, c'est un livre que je conseille et qui est un livre à lire évidemment de toute urgence.
Bien, ces ouvrages sont d'une grande richesse et j'invite les auditeurs à aller se les procurer auprès de la librairie de la Libre Pensée, 10 rue des Fossés Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement, ou sur notre site fnlp.fr à la rubrique librairie, où vous pourrez également vous abonner à La Raison. Notre émission arrive à son terme. Il me reste à remercier notre invitée Hélène. Merci Hélène. Philippe Baudouin à la réalisation, Marie-Claire Oumabadi à la technique et Claire Poinsignon à la production. Si les propos de ce jour vous ont intéressé, je vous invite donc à nous rejoindre sur notre site fnlp.fr. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une émission sur la première internationale avec l'universitaire Michel Cordillot.